Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. C'est un pionnier de la microbiologie. Il est à l'origine de plusieurs avancées scientifiques majeures du 19e siècle. Certains le considèrent même comme le père des sciences modernes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Louis Pasteur à l'occasion de l'ouverture de l'exposition très réussie qui lui est consacrée au Palais de la Découverte. Pour revenir sur la vie et les découvertes de ce scientifique français mondialement connu, je suis en compagnie du commissaire scientifique de cette exposition, Maxime Schwartz, et de Patrick Berch, qui a contribué à la rédaction de son catalogue. Tous deux vont nous raconter comment Louis Pasteur, chimiste et physicien de formation, a révolutionné la biologie et la médecine. Pour nous adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. La une de la science est avec Agnès Fèvre. Bonjour Agnès.
Bonjour Daniel.
À la une aujourd'hui, le microbiote qui impacte différemment les cellules immunitaires du cerveau selon les sexes et les périodes de la vie.
Oui, une étude franco-singapourienne montre que le microbiote, donc ces bactéries et parasites qui composent aussi notre organisme, peut par exemple affecter les cellules protectrices du cerveau dès le stade fœtal, en tout cas chez des souris mâles, une découverte dont on parle avec la neurobiologiste Sonia Garel.
Vos questions et vos réactions sur Twitter avec le mot-clé « l'attaque ». Voilà pour le programme de cette Tête au Carré, réalisé par Céline Hila et préparé par Sophie Vaux et Thomas Kalevitch.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Autour de la table, Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur et commissaire scientifique de l'exposition Pasteur, l'expérimentateur, présenté au Palais de la Découverte, et Patrick Berch, microbiologiste, directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Maxime Schwartz, de son vivant, Pasteur est entré dans la légende pour avoir vaincu la rage. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, le connaissons surtout pour ça, mais son apport aux sciences va bien au-delà, en fait.
Oh oui, tout le monde connaît Pasteur comme l'inventeur du vaccin contre la rage. En fait, ça n'est que la dernière de ses découvertes. Il a fait beaucoup d'autres choses, en commençant par des travaux de chimie qui ont abouti à mieux comprendre ce que étaient les molécules, donc de la chimie pure. Et puis ensuite, il a montré le rôle des microbes dans les fermentations. Il a été à l'origine de ce qu'on appelle la pasteurisation.
Oui.
Et puis ensuite, il a beaucoup contribué à montrer le rôle des microbes dans les maladies infectieuses. Et puis enfin, ses travaux sur les vaccins sont connus de tous.
Et Patrick Berch, on peut donc considérer Pasteur un peu comme le Christophe Colomb d'un nouveau monde, celui des microbes qu'on connaissait finalement très mal, pour pas dire pas du tout, à son époque.
On peut le dire, et c'est très paradoxal que ce soit un chimiste qui ait créé la microbiologie en montrant que les levures n'étaient pas des enzymes, mais étaient des cellules vivantes. Et ensuite, il a créé une deuxième discipline, l'immunologie, à travers ses travaux sur les vaccins.
Expérimentateur génial, entrepreneur, homme d'affaires, homme de communication aussi. L'exposition aborde toutes ses facettes, les facettes de ce personnage absolument fascinant. Cet après-midi, dans La Tête au Carré, on s'intéresse à Louis Pasteur, sa vie, ses découvertes, son tempérament. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de La Tête au Carré. À la une de la science, les liens entre le microbiote et les cellules immunitaires du cerveau chez la souris.
Le cerveau, 100 000 millions de cellules, 10 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de connexions.
Les cellules immunitaires du cerveau ne réagissent pas de la même façon au déséquilibre du microbiote selon les âges et les périodes de la vie. C'est ce qu'observent des chercheurs INSERM de l'Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure et du SAIN, le réseau d'immunologie de Singapour. Leurs résultats sont parus dans la revue Cell. On en parle, Agnès, avec votre invitée.
Sonia Garel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, vous dirigez le laboratoire développement et plasticité du cerveau à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Alors, dans cette étude, vous êtes partie du fait que le microbiote, donc tout ce que notre corps contient de bactéries, de parasites, de champignons, a un effet sur le cerveau et vous arrivez à deux résultats majeurs. Expliquez-nous.
Oui, donc en fait, on a exploré le lien entre l'ensemble des micro-organismes et les cellules immunitaires du cerveau qui s'appellent les microglies. Et ce qu'on a pu observer, on savait déjà en fait que des perturbations du microbiote pouvaient modifier les microglies, ces cellules immunitaires chez l'adulte. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé à toutes les étapes du développement et on est tombé sur un premier résultat assez fascinant qui était que le microbiote de la mère impacte sur les microglies de l'embryon présent dans l'utérus. Et l'autre observation assez remarquable, c'est qu'on a vu qu'en fonction de l'identité sexuelle des embryons, en fait, les cellules immunitaires étaient impactées de manière différente, c'est-à-dire qu'elles étaient très fortement perturbées chez les embryons mâles et très peu chez les embryons femelles. Et du coup, on a regardé plus tard chez les adultes et on a vu que des perturbations massives du microbiote, cette fois-ci chez l'adulte, impactaient préférentiellement en fait les femelles, les souris femelles, donc qui ont une perturbation majeure par rapport au mâle.
Tout ça, c'est chez la souris. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en déduire qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas aussi pour nous, ou est-ce qu'il faut rester prudent ?
Donc, il faut bien sûr rester très prudent. Ce sont des études chez la souris qui nous permettent de révéler que, dès les stades fœto-embryonnaires, il y a un effet, que cet effet, en plus, est différent en fonction donc de l'identité sexuelle. Et ça, ça pousse vraiment à regarder plus spécifiquement ce qui peut se passer chez l'homme. Mais il y a bien sûr une grande barrière entre les études chez la souris et chez l'homme.
Vous avez dit tout à l'heure, en présentant les résultats, que c'était très surprenant que le cerveau des mâles soit si vulnérable à certaines pathologies pendant la période embryonnaire. Pourquoi ça vous a tant surpris, Sonia Garel ?
Mais parce qu'en fait, on imagine toujours que finalement, dès les stades fœtaux ou au stade fœtaux embryonnaire, finalement, les embryons, qu'ils soient mâles ou femelles, donc là encore, on parle de la souris, hein, mais là, on peut aussi imaginer chez l'homme, sont finalement très similaires, ce qui est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en fait, face à une perturbation, certaines cellules du cerveau vont réagir différemment. Donc ça veut dire que en dessous, forcément, il doit y avoir une différence, soit dans l'interprétation de ces signaux, soit dans la réponse des cellules. Or, comme c'est dans l'utérus, et que chez la souris, il y a plusieurs embryons, on peut voir que dans un même environnement maternel, en fait, les mâles et les femelles sont différemment impactés.
Ces microglies qui sont affectées, donc ce sont les cellules immunitaires du cerveau, quel rôle elles jouent exactement et pourquoi c'est grave qu'elles soient ainsi affectées ?
Alors en fait, c'est des cellules absolument fascinantes. C'est des cellules qui sont les sentinelles en fait du cerveau. Donc elles sont là pour défendre face à des attaques, soit bactériennes, soit des lésions. Elles sentent, elles agissent comme des senseurs et elles sont capables de réagir en déblayant très vite soit des micro-organismes, soit des débris cellulaires, soit des amas toxiques. Donc c'est vraiment des cellules impliquées dans la défense immunitaire. Mais on sait aussi, par de nombreuses études ces dernières années, que c'est des cellules qui jouent un rôle dans le développement normal du cerveau, mais aussi dans son fonctionnement. Et notamment en régulant, en modulant le développement, la mise en place des connexions nerveuses, leur maintien, leur survie, et puis aussi l'élimination, par exemple, de neurones qui sont morts.
On comprend donc oui, pardon,
de manière de manière non surprenante, en fait, des dysfonctionnements de ces cellules ont vraiment été associés chez l'homme à tout un tas de maladies et de pathologies.
Oui, on comprend qu'elles sont indispensables, ces cellules, et que leur bon fonctionnement est indispensable à un fonctionnement normal de notre cerveau. Et le fait que le microbiote puisse les affecter, évidemment, ça a des conséquences graves. Mais est-ce que c'est définitif ? Est-ce que ces cellules peuvent se réparer par la suite ?
Oui, donc en fait, ce que l'on voit, c'est que quand on prend des perturbations du microbiote tout au long de la vie, on a des modèles de souris comme ça. Ce qu'on peut voir, c'est que au stade fœtal, les mâles sont plus affectés, et au stade adulte, plus les femelles. Mais ça veut dire que les embryons, enfin les cellules immunitaires, sont capables de récupérer. Donc il y a vraiment un effet à long terme, un petit peu de programmation de ces cellules en lien avec l'environnement. Et ça montre aussi que donc ces cellules immunitaires dans notre cerveau peuvent vraiment agir pour intégrer, associer des facteurs environnementaux au câblage du cerveau et à son fonctionnement. Et alors, bien sûr, notre étude ne le démontre pas du tout, mais un lien, ça suggère que ces cellules pourraient être impactées différemment. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, parmi toutes les pathologies humaines qui sont associées à des problèmes de fonctionnement de ces cellules, on va retrouver par exemple des pathologies neurodéveloppementales, comme les troubles autistiques ou la schizophrénie, qui ont une prévalence beaucoup plus accrue chez les hommes, cette fois-ci chez l'homme, alors que des pathologies qui vont être plutôt de l'ordre auto-immunitaire ou d'autres pathologies adultes vont, elles, avoir une prévalence plus grande chez les femmes. Donc ça montre des périodes critiques différentes en fonction du stade de la vie et de l'identité sexuelle, cette fois-ci chez nous c'est la souris, qui peuvent être qui peut faire écho à des différences d'atteinte de pathologie chez l'homme.
Ces différences de réaction entre les sexes et les stades de la vie, vous avez des hypothèses pour les expliquer ?
Alors ça sera une des conséquences qu'on va explorer, donc de comprendre, même si en apparence elles ont l'air relativement similaires, clairement, elles ont des propriétés, des capacités de répondre à des perturbations extérieures qui sont différentes. Et donc là, on peut imaginer tout un tas de processus, ça peut être très bien l'imprégnation hormonale ou des différences même au niveau des chromosomes sexuels qui vont impacter la manière dont ces cellules répondent.
Alors, il y a quand même, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est le microbiote, cette flore intestinale, l'ensemble de ces bactéries que l'on a sur la peau, avec lesquelles on vit. On a plusieurs kilos de bactéries en permanence avec nous et on n'en finit pas de leur découvrir de nouveaux rôles. Elles sont indispensables. Le moindre dérèglement de ce microbiote a des conséquences très importantes. C'est ce dont on se rend compte avec votre étude.
Oui, c'est vrai que finalement, on vit en symbiose avec tous ces micro-organismes qui sont sur notre peau, dans notre système digestif. Et clairement, il y a un dialogue permanent entre ces organismes et le corps et la physiologie. Donc, c'est nécessaire au bon fonctionnement. Et effectivement, on voit que si elles sont perturbées, ça va aussi avoir des effets, y compris sur des petites cellules immunitaires qui sont situées dans notre cerveau et parfois même dans le cerveau embryonnaire.
Je profite du fait qu'on a autour de la table un microbiologiste, Patrick Berge, venu nous parler de Louis Pasteur, pour lui demander justement à cette époque, au 19e siècle, on commence à peine à entrevoir ce petit microcosme, ces micro-organismes. Est-ce qu'on a conscience que dans l'eau, il y en a des qui nous veulent du bien, des qui nous protègent et que finalement, c'est une symbiose le plus souvent, parfois un dérèglement, mais la plupart du temps, ça se passe pour...
Alors, cette prise de conscience a peut-être commencé à l'Institut Pasteur avec Elie Metchnikoff, qui avait la conviction qu'il y avait des ferments lactiques qui pouvaient améliorer la bonne santé. Mais la découverte du rôle du microbiote, aussi bien positif que négatif, a demandé pas mal de temps jusqu'à aujourd'hui.
Sonia Garel, donc peut-être que votre découverte aurait sidéré Louis Pasteur, finalement. Vous êtes dans la lignée.
J'ose pas dire oui, je vais dire que je l'espère, mais c'est vrai que ces travaux pour nous ouvrent des tas de perspectives et puis maintenant aussi d'aller regarder en fait comment ces petites cellules immunitaires, leurs perturbations, leur fonctionnement impactent sur les circuits cérébraux, la plasticité et la mise en place de toute cette organisation neuronale magique.
Merci Sonia Garel.
Merci à vous.
Et Agnès, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, mais où est donc passée l'eau sur Mars? On savait déjà qu'elle était en partie évaporée, mais une équipe de chercheurs de l'université d'Oxford apporte un complément de réponse en s'intéressant aux roches basaltiques de la planète rouge. Selon les études publiées dans Nature, l'eau a été absorbée par les laves volcaniques. Les basaltes sur Mars sont beaucoup plus riches en fer que sur Terre, ce qui leur confère une capacité d'absorption de l'eau importante. Il est donc possible qu'ils aient drainé ces basaltes de l'eau jusque dans le sous-sol martien. Une hypothèse déjà émise suite aux données recueillies par le rover Curiosity et qui reste à confirmer. Les premières algues photosynthétiques auraient 1,25 milliard d'années. Des chercheurs de l'université de McGill ont analysé un fossile d'algues d'une espèce déjà découverte, mais dont la datation restait approximative. Son âge est donc plus précis aujourd'hui et permet de dater l'apparition des chloroplastes, les cellules qui sont responsables de la photosynthèse chez les plantes et les algues. Dans la revue Géologie, les chercheurs indiquent qu'à l'aide d'un modèle basé sur les taux de mutation génétique, ils ont pu remonter à l'émergence possible de la photosynthèse il y a donc 1,25 milliard d'années. Les fêtes de Noël auraient-elles un pouvoir aphrodisiaque? C'est ce qu'indique une large étude publiée dans Scientific Report menée dans 130 pays. Les chercheurs savaient déjà que la période des fêtes donnait lieu à un pic de naissance 9 mois plus tard, mais en mettant une analyse de grande ampleur sur les recherches sur Internet liées au sexe, ils ont mis en évidence une recrudescence de ces recherches précisément au moment de Noël. Plus généralement, leur étude révèle que l'intérêt pour le sexe atteint des sommets significatifs lors des grandes célébrations culturelles ou religieuses. Ils arrivent par exemple aux mêmes conclusions pour l'Eid el-Fitr qui fête la fin du Ramadan. Dans un instant, Louis Pasteur dans La Tête au Carré. Pour nous adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Comprendrais-tu, ma belle, qu'un jour fatigué, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour. Sur la bouche, je t'emmène hors des villes, en un fort, une presqu'île. Oubliez nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles. On irait t'y attendre, la fin des combats, jeter aux verres, au retour, tous nos plus beaux discours. Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existent pas, y devenir. De la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles.
L'autre Finistère, c'était les innocents dans La Tête au Carré.
La Tête au Carré.
Mesdames, messieurs, les enfants, approchez, approchez et venez écouter la sublime histoire, le drame héroïque, la vie du grand Louis Pasteur.
Avec Daniel Fievé sur France Inter.
Et La Tête au Carré s'intéresse à la vie et aux découvertes de Louis Pasteur en compagnie de Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur et commissaire scientifique de l'exposition Pasteur, l'expérimentateur, qui a ouvert ses portes au Palais de la Découverte, et Patrick Berche, microbiologiste, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, qui signe un chapitre du catalogue de l'exposition Louis Pasteur le visionnaire aux éditions de La Martinière. Alors, contrairement à cette entrée en matière très dithyrambique sur la vie de Louis Pasteur, Maxime Schwartz, vous aviez aussi envie, avec cette exposition et avec ce catalogue de l'exposition, d'aller un peu gratter au-delà de cette image un peu trop parfaite de Louis Pasteur.
Il y a deux originalités dans ce livre. La première, c'est qu'on inscrit l'œuvre de Pasteur dans l'histoire, naturellement en racontant un peu ce qui était fait avant, mais surtout en montrant quels en sont les développements actuels. Nous profitons encore aujourd'hui de l'œuvre de Pasteur. Et le deuxième aspect, c'est effectivement de montrer que Pasteur n'est pas cette espèce de saint laïque assez figé que l'on s'imagine, et qu'il y a beaucoup d'aspects de sa personnalité qui sont méconnus et sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir.
Mais bien sûr, par exemple son goût pour les arts, hein. Très jeune, il peint, hein. Le jeune Pasteur, qui n'est pas d'ailleurs très brillant à l'école, en tout cas qui ne brille pas spécialement, hein, je crois.
Oui, effectivement, c'était un élève moyen pendant une bonne partie de ses études, mais il adorait faire des pastels, et il imaginait devenir pastelliste par la suite. Mais son père ne l'a pas laissé faire.
Bon, ben voilà, bon, finalement ça lui a plutôt réussi. Alors, Pasteur commence par des études de chimie et de physique, hein. Il est physicien et chimiste de formation. Comment en vient-il à s'intéresser à toutes ces découvertes en microbiologie, Patrick Berche?
Ça a été une conséquence logique. Il découvre au départ le fait que la matière matière organique, les cristaux organiques dévient la lumière à la différence des cristaux minéraux. Et progressivement, il va s'intéresser à la fermentation. Il arrive en 1853 à Lille, et il est professeur de chimie à Lille et doyen de la faculté. Et là, il est interpellé, on peut dire, par Monsieur Bigot, qui est un brasseur et qui a des problèmes de production de bière avec des lots qui sont de mauvaise qualité, ouais, qui sont acides, et des lots qui sont excellents. Il comprend pas pourquoi. Ouais. Pasteur arrive avec son polarimètre et son microscope et résout le problème en quelques mois. Il s'aperçoit que les lots adultérés sont contaminés par des bactéries. C'est des bactéries lactiques, en fait. Et il va s'intéresser aux fermentations. En montrant l'idée force, c'est que chaque fermentation est due à un germe spécifique. La fermentation lactique, la fermentation alcoolique, la fermentation butyrique, et il va trouver un certain nombre de germes. Mmh. Et ça, c'est l'origine probablement de la théorie des germes qu'il va ensuite étendre aux maladies infectieuses.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a cette image dans le monde de la biologie, dans le monde de la médicale de Louis Pasteur, mais finalement son premier contact avec ce monde des micro-organismes, c'est plutôt, Maxime Schwartz, avec l'agroalimentaire.
Oui, c'est tout à fait l'agroalimentaire. En fait, bon, il s'est intéressé beaucoup à la bière, mais plutôt un peu plus tard. Au départ, c'était surtout le problème de fabrication de l'alcool à partir de sucre de betterave. Et les gens ne comprenaient pas du tout comment se faisait l'alcool. Et lui, il a montré que finalement, il y avait des micro-organismes, ce sont des levures, qui mangeaient le sucre et en profitaient donc pour se développer et qui recrachaient de l'alcool. Donc que la fermentation était due au métabolisme, on dirait aujourd'hui, au métabolisme des micro-organismes.
Mais très tôt, il se fait un nom sur ces questions-là et sur ces enquêtes. C'est des véritables enquêtes qu'il va mener, puisque c'est Napoléon III en personne qui le missionne pour essayer de comprendre pourquoi une bonne partie de la production de vin est imbuvable.
Oui, il va tout de suite avoir une notoriété pour avoir trouvé que les levures n'étaient pas, les ferments n'étaient pas des produits des enzymes, mais étaient au contraire des cellules vivantes, ce qui avait déjà été entrevu avant lui. Mais ensuite, on va lui demander son expertise. D'ailleurs, tout au long de sa vie, il va travailler sur expertise. Quand il va faire le choléra des poules, etc., il sera appelé les maladies des vers à soie. Et donc, il va progressivement s'intéresser aux maladies infectieuses avec une raison peut-être personnelle. C'est qu'il a perdu deux enfants en bas âge, enfin jeunes, de maladies infectieuses, fièvre typhoïde, et que ça l'a profondément marqué. Et on raconte qu'il regrettait beaucoup de ne pas être médecin, de ne pas avoir fait ses études de médecine.
Il va travailler avec des médecins, mais lui n'était pas médecin. On va y venir à l'aspect médical de la carrière de Louis Pasteur, mais moi j'étais parti sur le vin. On l'appelle Napoléon III, se plaint qu'une bonne partie de la production nationale est absolument imbuvable. Alors, que va découvrir Pasteur, Maxime Schwartz ?
Oui, ce qu'on sait d'abord, c'est que le vin, si on le laisse à l'air, il devient du vinaigre assez facilement, mais il y a aussi plusieurs autres maladies du vin. Et Pasteur s'est rendu compte, à la demande donc de Napoléon III, que à chaque fois que le vin devenait mauvais, c'est qu'il y avait un mauvais microbe qui s'était introduit dans le vin. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que il a pu assez rapidement, quand on lui apportait une bouteille de vin qui était altérée, en regardant les microbes qu'il y avait dans le dépôt, il pouvait dire voilà, ce vin va avoir telle et telle mauvaise propriété. Ouais. C'est intéressant parce que dans les maladies infectieuses, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, où à partir du microbe, on reconnaît la maladie. Ouais. Mais il faisait déjà ça dans le vin. Et alors, il a compris qu'il fallait éliminer ces mauvais microbes. Et il a mis au point un procédé de chauffage entre 60 et 100 degrés, pas trop long, qui détruisait les mauvais microbes, qui permettait de conserver le vin. Et assez rapidement, les étrangers se sont emparés de ce procédé. Ce sont en fait les Allemands, puis les Hongrois, qui ont décidé d'appeler ce procédé la pasteurisation. Ouais. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup la pasteurisation pour le vin, mais comme tout le monde le sait, on l'utilise pour de nombreux autres produits, notamment le lait et des dérivés
comme
du
lait. Mais ça a commencé avec du vin. On a d'abord pasteurisé
le vin.
Pasteurisé du vin. Ça change beaucoup le goût de le chauffer à 60, même
quand
plus.
Quand on lit les documents de l'époque, il semblerait que ça ne le changeait pas beaucoup, mais probablement que ça avait quand même un effet, parce que si on a abandonné ce procédé maintenant, et par exemple les sulfites qu'on voit dans le vin aujourd'hui, ça remplace finalement l'effet du chauffage, de la pasteurisation.
Et Patrick Berge, quand Pasteur s'intéresse à la fermentation, à la façon de se débarrasser de certains de ces microbes, qu'est-ce qu'on sait exactement de ces microbes? Il ne les découvre pas complètement, certains ont déjà connaissance de leur existence.
Oui, plusieurs chercheurs allemands et un chercheur français, Cagnard Latour, avaient pensé que ces levures étaient des êtres vivants. Et ils avaient comme argument qu'au cours de la fermentation, on voit augmenter le nombre de levures et que s'ils ajoutent, par exemple, de l'arsenic, qui est quelque chose qui tue les micro-organismes, eh bien, ils arrêtent le processus de fermentation. Donc, il y avait cette possibilité. Mais la plupart des chimistes à l'époque pensaient que c'était des enzymes. Et ça a été ça, ce qui les a conduits, ce qui a conduit Pasteur progressivement, avec une démonstration magistrale, à montrer, en travaillant sur la fermentation lactique, car il était très politique, il ne voulait pas publier d'abord sur la fermentation alcoolique, parce que là, il y avait des foultitudes de publications, il a publié d'abord sur la fermentation lactique en 1857, ce qui est considéré comme à l'origine de la microbiologie, en quelque sorte.
Et il se rend compte aussi, peut-être plus que les autres, à quel point ces microbes sont partout.
Alors, effectivement, ça va amener à l'histoire de la génération spontanée. Il a la conviction que les microbes qui peuvent contaminer un bouillon viennent de l'air. Et il va faire de nombreuses expériences pour montrer que l'air est contaminé et que cet air explique que lorsque on expose un bouillon à la température ordinaire dans un flacon ouvert, ce bouillon va se troubler très vite.
Alors que pour d'autres, à cette époque, pour d'autres scientifiques et pas des moindres, il est possible que des microbes émergent comme ça spontanément. On parle de génération spontanée.
La cause de la pourriture est que les micro-organismes apparaissent spontanément à l'intérieur des choses. La génération spontanée est ce que l'on appelle le processus de putréfaction. Les théories de Pasteur sont de pures idioties.
Voilà, pour Félix Pouchet, les théories de Pasteur étaient de pures idioties et les deux hommes vont s'empoigner devant l'Académie des sciences. Le débat fait rage à l'époque.
Oui, Pasteur avait été très irrité par la publication du livre « Hétérogénie » de 800 pages prouvant que finalement la génération spontanée qui date d'Aristote était réelle. Et donc il y a eu un débat à l'Académie des sciences et ils se sont affrontés, l'un travaillant sur de l'eau de levure et l'autre travaillant sur des infusions de foin. C'est assez important et de cette distinction parce que les infusions de foin contiennent des bactéries sporulées très résistantes à la chaleur. Donc Pouchet, qui était Archimède Pouchet, qui était quelqu'un de tout à fait honnête et n'arrivait pas à reproduire les expériences de Pasteur, et Pasteur, quand il chauffait son bouillon à 100 degrés pendant un certain temps, obtenait la stérilité. Donc,
c'est-à-dire que Félix Archimède Pouchet n'était pas finalement un charlot, simplement il ne tirait pas les mêmes conclusions de ses expériences.
Il avait en face de lui un excellent expérimentateur, quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Ça fait partie des grandes qualités de Pasteur, un observateur extraordinaire et un excellent expérimentateur. Et Pouchet n'était pas probablement un très bon expérimentateur.
Oui, alors ils vont loin, ils vont l'un et l'autre jusqu'en haut des montagnes pour montrer que là, l'air est plus pur, donc on a moins de contamination. Pour Félix Archimède Pouchet, c'est dans les Pyrénées. Pour Pasteur, c'est dans les Alpes, Marc-Sim Schwartz. Il y a vraiment cette volonté de prouver de façon spectaculaire.
Oui, c'est exact. Donc Pasteur arrive à convaincre, je crois, une bonne partie des scientifiques que les microbes viennent de l'air. Et puis après ça, il se pose la question de savoir est-ce qu'il va y avoir des microbes avec une même quantité en différents endroits. Et il va ouvrir ses ballons soit à Paris, soit sur la mer de glace, Chamonix. Et il va voir que quand il le fait en haut de la montagne, il n'a que 0, 1 ou 2 ballons qui vont se contaminer et que les autres restent intacts. Donc il en déduit qu'il y a beaucoup moins de microbes en haut de la montagne. Pendant ce temps, Pouchet, lui, monte en haut des Pyrénées et il fait le même genre d'expérience et lui, il trouve que tous ces ballons deviennent contaminés. Et comme le disait à l'instant Patrick Berge, le problème c'est qu'il travaillait avec des infusions de foin et on ne savait pas à l'époque que les bactéries pouvaient donner des spores. C'est d'ailleurs Pasteur qui le montrera peu d'années ultérieurement. Donc il ne savait pas que quand il pensait stériliser ces milieux en les faisant bouillir, en fait il ne détruisait pas les spores et donc les spores se remettaient à germer. Mais une chose très intéressante pour la génération spontanée, c'est que ça a intéressé énormément le public, pas seulement pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons philosophiques. parce que d'imaginer que la vie pouvait apparaître spontanément n'importe où, eh bien c'était les libres penseurs qui étaient défendaient ça en disant bah la vie finalement ça apparaît n'importe comment, alors que par contre les croyants eux pensent qu'il y a une création initiale et donc la vie peut pas apparaître n'importe quand. Ouais. Donc il y a eu un débat philosophique qui s'est installé à ce moment-là et beaucoup de gens sont venus défiler dans le laboratoire de Pasteur pour voir vraiment quelles étaient ses expériences. C'était un sujet très important.
L'apport de Pasteur va aussi évidemment être dans la lutte contre les maladies infectieuses. Ça va être déterminant. Nous allons le voir dans la suite de cette Tête au Carré. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. To get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you. Just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me. You can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first? Told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why. C'était Sunflowers de Rex Orange County sur France Inter dans la Tête au Carré.
Vous vous rappelez le 19e siècle? Non? Tu m'étonnes. C'est loin déjà. Pourtant, le 19e siècle, c'est complètement fou. À cette époque, le contexte est favorable à la recherche scientifique. De tous les côtés, on cherche, on découvre, on applique à l'industrie. On révolutionne les transports. On peut se parler à travers de nouvelles technologies de communication, comme le téléphone. Ça vous fait rire, gredin. C'est vrai pourtant. Et notre ami Pasteur, lui, au milieu de toute cette grandeur, avec son microscope, il passe son temps à regarder les infiniment petits. Un vrai poète.
Autour de la table, un biologiste moléculaire, Maxime Schwartz, et un microbiologiste, Patrick Berch. Ils nous comptent tous les deux la vie et les découvertes de Louis Pasteur dans la Tête au Carré cet après-midi. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de ce que l'on peut entendre dans l'exposition sur Pasteur présentée au Palais de la Découverte. Dans cette exposition, au-delà du contexte, comme on vient de l'entendre, du contexte de l'époque dans laquelle évolue Louis Pasteur, on découvre aussi que Pasteur est un expérimentateur, qu'on l'appelle aux quatre coins de France pour résoudre de véritables énigmes. Il y a un côté vraiment enquête policière et dans des domaines auxquels il ne connaît au départ pas grand-chose. Hein. Des fois, on l'appelle sur des affaires, il y va, mais il n'y connaît pas grand-chose. C'est le cas notamment pour une maladie qui touche les vers à soie, Patrick Bersch.
Oui, dans le sud de la France, dans les Cévennes, est apparue une épidémie, dans les années 1860, par là, une épidémie de vers à soie qui a décimé les élevages de vers à soie et donc avait des conséquences économiques très importantes. Et Pasteur est envoyé là-bas par le ministère pour faire une enquête sur l'origine de cette maladie. Et alors, en l'espace de 2 ans ou de 3 ans, il va résoudre l'énigme. D'abord, il va trouver qu'il y a 2 maladies et pas une. Une maladie qu'on appelle la pébrine, à cause du fait que les vers ont des petits points de poivre, ont un aspect avec comme du poivre sur leur tissu. Et cette pébrine est liée à un parasite, une microsporidie, qui montre que c'est vraiment... ça la cause. Et puis il y a une deuxième maladie qui s'appelle une maladie qui rend les vers flasques, la flasherie. Et là, il sépare donc les 2 maladies et il va préconiser des mesures prophylactiques, à savoir d'une part, puisque ces germes se transmettent par les œufs, etc., de génération en génération, mais pas à tous. Donc il va sélectionner des élevages parfaitement sains et il va les redonner aux agriculteurs et aux sériculteurs plutôt.
Maxime Schwartz, c'est vraiment très moderne. On s'en rend peut-être pas compte parce que maintenant c'est comme ça qu'on fait de la science, mais c'est très moderne cette façon d'aborder les problèmes à l'époque. Lui qui, je le rappelle, hein, il est chimiste et physicien de formation, là il agit comme un biologiste de façon très méthodique et ses recommandations sont d'une modernité incroyable.
Oui, la première fois, c'était quand on l'a appelé pour les problèmes d'alcool dans le Nord. La deuxième fois, ça a été effectivement pour la sériciculture. Et il fait une analyse très, très minutieuse. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que c'est un peu un précurseur de la science moderne. Oui. Parce que, avant, les gens qui s'occupaient de sciences de la vie faisaient beaucoup d'observations, classifications. Mais lui, il part vraiment de la notion qu'on peut avoir des théories, mais tant que les théories ne sont pas prouvées par l'expérimentation, bien, elles ne valent rien. Donc, l'expérience, c'est vraiment le juge de paix. Et c'est là qu'il va faire des expérimentations, dans le cas des vers à soie en particulier, pour montrer que la maladie disparaît si on arrive à séparer les femelles donnant si on élimine les femelles qui ont donné des œufs contaminés de celles qui ne l'ont pas fait.
Et puis il y a comme ça toute une série de mystères auxquels on le confronte, hein, puisque sa notoriété va grandissante, ses succès aussi, donc on le met au défi de trouver comme ça des énigmes qui mettent tout le monde un peu dans l'embarras. Il y a par exemple le mystère des champs maudits. Je laisse le soin à Louis Pasteur lui-même de vous expliquer ce cas.
Le charbon du mouton faisait de grands ravages. Sans raison apparente, des troupeaux entiers de moutons tombaient les uns après les autres, en quelques heures. Les paysans disaient que leurs champs étaient maudits, car leurs bêtes mouraient. Mais à quelques pas de là, d'autres moutons ne montraient aucun signe de la maladie. Étrange énigme, non ?
Qu'est-ce que vous avez fait ?
Je suis retourné sur place pour voir de mes propres yeux. Un bon enquêteur, c'est d'abord un bon observateur. Voir ce que les autres n'ont pas vu est la clé. Quand on cherche un meurtrier, il faut trouver des indices, des preuves. Le savant agit exactement de la même façon.
Ce sont des véritables enquêtes policières auxquelles se livre Louis Pasteur. Alors, il n'est pas seul. Hein. Ça aussi, c'est peut-être une des images d'Épinal avec laquelle il faut rompre. Il est entouré, il a des collaborateurs. Quand il se déplace, ce sont des véritables laboratoires de campagne qu'il établit dans les régions qu'il visite, Maxime Schwartz.
Bien, il a à la fois des collaborateurs et puis des adversaires, si on veut. Et les deux interviennent. Et je crois que dans cette histoire du charbon qui est présent dans les champs maudits, la première étape a été de déterminer quelle était l'origine du charbon. Et ça, eh bien, c'est un travail où ont contribué à la fois deux Français, Casimir Davaine, qui était un Français, puis Robert Koch, qui était un Allemand, et à nouveau Pasteur. Et c'est à eux trois qui sont arrivés à démontrer qu'il y avait un microbe particulier qui était responsable du charbon. Et Robert Koch a fait une découverte très importante, c'est que ce microbe-là donnait des spores. C'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure mentionné à propos de Pouchet. Et ces spores sont très résistantes. Donc déjà, Corps s'est dit, s'il y a des champs maudits, eh ben c'est peut-être parce que les spores, lorsque des animaux meurent du charbon dans un champ, eh bien les spores vont rester, vont pouvoir contaminer d'autres animaux. Mais malgré tout, il était un peu difficile de comprendre comment ces spores allaient pouvoir rester accessibles pendant très longtemps, des mois, des années, malgré le soleil, la pluie, etc.
Ça faisait partie de l'énigme des champs, ces fameux champs maudits. Pendant plusieurs années, aucun mouton n'allait y paître. Et dès qu'on remettait les moutons, à nouveau, ils mouraient.
Bien, c'est ça justement l'énigme qu'est arrivé à résoudre Pasteur. Il est allé, il s'est déplacé effectivement avec ses collaborateurs dans des champs dits maudits, et il a constaté qu'il y avait des endroits où l'herbe était un petit peu différente, elle était un peu plus verte. Il a interrogé les éleveurs qui ont dit « Ah bah oui, c'est là qu'on a enterré les animaux qui avaient eu le charbon l'année précédente ou quelques années auparavant ». Et il s'est dit, oui, mais comment est-ce que la maladie peut revenir depuis le fond de la fosse jusqu'à la surface? Et alors, il voit des tortillons de vers de terre à cet endroit-là, et il a une idée, il dit pas Eureka, mais il doit le penser. Il se dit, c'est sans doute les vers de terre qui sont allés chercher les spores de charbon tout au fond et qui les remontent. Et il a constaté, effectivement, il n'a pas seulement fait une théorie, l'expérience a été de prélever ces tortillons de vers de terre et de constater qu'il y avait effectivement des spores de bacilles de charbon dans ces tortillons, et donc ça expliquait que les spores reviennent sans arrêt à la surface et puissent ensuite être consommés par les animaux et les contaminer.
Alors une fois qu'on a compris ça, quelle solution on propose pour arrêter ce cycle infernal de la maladie?
On propose surtout de ne pas enterrer les animaux dans les champs où vont ensuite aller paître d'autres animaux plus tard, ou si jamais on le fait sur place, il faut absolument les recouvrir de chaud et faire en sorte qu'on détruise complètement tous les microbes qui sont présents dans l'animal et autour de l'animal.
On est vraiment, Patrick Berche, toujours dans la recherche très appliquée. Hein. C'est toujours dans le but d'appliquer des solutions, de trouver des solutions au vin qui a tourné, aux maladies du mouton. Il est pas là dans la recherche fondamentale, comprendre pour comprendre, Pasteur.
Il n'est pas dans la recherche fondamentale, mais il va toujours tirer des conclusions beaucoup plus générales que des expériences assez miniaturisées, si je puis dire, sur un problème donné. Il a toujours une vision beaucoup plus large que celle du problème. Quand il travaille sur les ferments, il pense déjà aux maladies infectieuses.
Oui, parce que les maladies infectieuses, ça aussi, hein, c'est en germe, si j'ose dire. Dès le début, finalement, il va finir par se rendre compte que beaucoup de maladies, la plupart des maladies, sont liées à ces germes. Et ça encore, à l'époque, c'est pas du tout acquis.
Alors, c'est pas acquis. Et là, il y a l'épisode du choléra des poules. On l'appelle pour le choléra des poules. Et c'est une maladie qui décime les élevages de volailles. 90% des poules meurent. Et il s'aperçoit, premièrement, il isole le germe et il reproduit la maladie chez les volailles. Mais surtout, quand la culture vieillit, il s'aperçoit que la virulence diminue. Et ça, il va l'utiliser comme vaccin. Parce que là, le coup de génie, c'est que une expérience ratée, on injecte une bactérie qui n'est plus virulente dans la culture vieillie, et il va éprouver ses volailles avec du germe très virulent, il va montrer qu'il y a une protection. Il va appeler ça la vaccination. Mmh. Et il va faire une deuxième observation extrêmement importante en épidémiologie. C'est que lorsque il inocule bactérie du choléra des poules, il y a quelques poules qui survivent. Quelques poules survivent. Et elles continuent à émettre des bactéries ultra-virulentes. C'est le phénomène du porteur sain. On peut être porteur sain du choléra des poules, porteur sain du choléra, et ça explique, ça va donner beaucoup d'explications aux épidémiologistes.
Et puis viendra, après ces premiers vaccins dans le monde animal, viendra le vaccin qui lui vaudra une renommée mondiale, le vaccin contre la rage. Vous allez nous raconter cette histoire dans un instant.
Vous êtes un visionnaire, monsieur Pasteur. Mais sachez que, comme tout visionnaire, vous êtes condamné à vous battre contre l'écrasante majorité des gens.
Moi, je
dans fond bois, c'était Mélissa Lavaux et la programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin.
La tête au carré, Daniel Fievé.
On s'intéresse à la vie et aux découvertes de Louis Pasteur dans la tête au carré à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Pasteur, l'expérimentateur au Palais de la Découverte. Mes invités sont deux biologistes, Maxime Schwartz, commissaire scientifique de cette exposition, et Patrick Berge qui a participé à la rédaction de son catalogue publié aux éditions de La Martinière. Alors l'idée de cette exposition, hein, on l'a dit, Maxime Schwartz, ça n'est pas parce que pour le moment on est très élogieux à l'égard de ce Pasteur, mais il avait aussi peut-être des zones d'ombre. Un ambitieux, ça c'est certain, c'était un ambitieux, Louis Pasteur. Alors, il avait aussi ce côté entrepreneur, avec ses découvertes, il a su faire fructifier, gagner de l'argent. Il s'est beaucoup enrichi, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais il faisait aussi ça pour la gloire et pour l'argent.
Mais d'abord, il est exact que Pasteur a été au cœur de controverses pendant l'ensemble de sa carrière, que ce depuis la chimie jusqu'au vaccin contre la rage, et on n'en finirait pas d'énumérer tous ses opposants. Alors ça, c'est un aspect intéressant que vous soulevez, parce que on a beaucoup dépeint Pasteur comme un saint laïque totalement désintéressé. En fait, ça n'est pas la réalité, et dans ce catalogue de l'exposition, il y a un excellent chapitre écrit par M. Galvez Béard, qui est justement de Lille d'ailleurs, et qui montre que finalement Pasteur est plutôt le précurseur des créateurs de start-up. Oui. Il n'y a qu'à partir du moment où il a travaillé sur la bière, il a pris des brevets, il a fondé une société destinée à exploiter ces brevets. Mmh. Même chose ensuite pour le vaccin contre le charbon, et puis il y a eu création de l'Institut Pasteur. À chaque fois, c'était vraiment comme les créateurs de start-up d'aujourd'hui. Alors, toutes ces démarches ont permis d'une part d'obtenir des fonds pour développer la recherche, mais en même temps, une partie de ces fonds lui ont permis à lui de s'enrichir, de même que ses collègues, mais d'une façon malgré tout raisonnable. Cela dit, Pasteur a commencé extrêmement modeste, il était un fils de tanneur, et il a terminé comme étant quand même l'un des plus fortunés des hommes de science de l'époque.
Oui, alors on connaît surtout Pasteur pour avoir vaincu une maladie terrifiante à l'époque, la rage. Ce que l'on sait moins, c'est que pour arriver à cette réussite, Pasteur a travaillé clandestinement, a pris des risques qui seraient immédiatement condamnés aujourd'hui, Patrick Berche.
Ben, il a commencé à travailler sur la rage, alors probablement on parle d'un souvenir d'enfance où il aurait assisté à un accident où un chien enragé aurait mordu plusieurs personnes et ça l'avait frappé. Et il s'est intéressé à la rage à la suite d'une publication montrant que la bave pouvait transmettre cette maladie. Mais on ne voyait pas le germe, oui. C'est un virus qu'on ne voit pas au microscope. Et donc il a, avec sa rigueur expérimentale, il a eu l'idée d'abord d'ensemencer directement la bave sur le virus, sur l'encéphale de lapin. Et ensuite, il a obtenu un virus extrêmement virulent qu'il a atténué par dessèchement essentiellement. Et il a préconisé, alors il a eu une intuition extraordinaire pour la vaccination contre la rage, utiliser le vaccin comme un traitement. Et la vaccination de la rage reste dans l'histoire, même de l'histoire de la médecine. C'est la première fois que quelqu'un réussit à guérir une maladie toujours mortelle.
Sauf que la première personne qu'il vaccine, c'est Joseph Meister. Et c'est un enfant qui a été mordu par 12 fois, je crois, par un chien enragé. Sa mère est désespérée, a entendu parler de ce que fait Louis Pasteur dans son laboratoire, mais sur les animaux, et demande à Louis Pasteur de vacciner cet enfant. Les plus proches collaborateurs de Pasteur, dont Émile Roux, ils sont radicalement opposés parce que pour eux, il est trop tôt, c'est très dangereux et le remède pourrait être encore pire que le mal. Pasteur va quand même faire l'opération sans en avertir Émile Roux.
Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?
Parce que je savais que vous y seriez opposé.
Oui, et j'aurais eu raison. On connaît peut-être les dosages pour des chiens, mais pas pour les êtres humains. Ce que vous faites est de la folie, vous mettez la vie d'un enfant en danger.
Je n'agis pas sur un coup de tête, je sais ce que je fais.
Vous êtes arrogant et orgueilleux, monsieur. Prendre un enfant comme cobaye est inhumain.
Et vous, mon ami, vous réagissez comme un médecin, pas comme un savant. C'est votre cœur qui répond, pas votre cerveau.
Je réagis comme un être humain.
Et moi, je fais tout pour en sauver un. Je ne teste pas mon vaccin, j'essaye de sauver la vie d'un enfant.
Vous êtes sûr que c'est bien l'enfant, votre motivation, pas votre vaccin?
C'est un extrait d'un documentaire fiction de Alain Brunard. Évidemment, on n'y était pas, mais on sent dans cet échange que Pasteur a pris des risques pour vacciner cet enfant.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre. Ouais. Pour moi, Pasteur, d'abord, il était réticent lui-même. Il n'avait pas du tout envie de vacciner cet enfant. On donne l'impression qu'il l'a utilisé comme un cobaye. Ouais. Et en réalité, il a consulté deux médecins extrêmement éminents de l'époque. D'une part, Vulpian, un neurologue, et d'autre part, le docteur Cranchet, qui travaillait aux enfants malades. Et les deux médecins lui ont dit « cet enfant est condamné à mort. Il va mourir parce qu'il avait été très sévèrement mordu ». Et donc, il y est allé à reculons. Et il a tenté le coup.
Alors, Patrick Berge, peut-être que cette deuxième archive va plus vous satisfaire, va plus aller dans le sens de ce que vous dites. C'est le petit Joseph Meister, pour qui ça a marché, qui a été vacciné. Il deviendra grand, le petit Joseph Meister. Il deviendra même le concierge de l'Institut Pasteur quand elle verra le jour. Et il raconte son histoire. C'est une archive authentique, cette fois, en 1938.
Monsieur Meister, vous aviez, si je ne me trompe, 9 ans, lorsque, dans le petit village alsacien où vous habitiez, vous avez été mordu par un chien enragé.
En effet, c'était en 1885. À cette époque, Monsieur Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur.
Car, bien entendu, l'Institut Pasteur n'existait pas à ce moment-là. Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il?
M. Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait.
Vous avez donc, en quelque sorte, servi de cobaye, le premier cobaye humain, à Pasteur. Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi.
Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage.
Voilà pour cette archive qui date de 1938 et dans laquelle quand même le journaliste déjà a l'idée que le jeune Joseph Meister a servi de cobaye, il dit, de cobaye donc. Maxime Schwartz.
Ben, c'est un peu vrai. Il faut voir que la méthode de vaccination de Pasteur était assez originale. Ça s'apparente à la mithridatisation, c'est-à-dire que quand on donne des doses croissantes de poison pour s'y habituer. Parce qu'en fait, Pasteur partait de moelles de lapins enragés. Il les laissait sécher 15 jours, donc elles étaient plus du tout virulentes. Donc il donnait un peu de cette moelle qui était restée 15 jours, et puis le lendemain 14 jours, etc. Et le dernier jour, eh bien, il donnait une moelle qui était totalement virulente et qui aurait donné la rage à l'enfant si il n'avait pas été immunisé par les injections antérieures. C'était donc quand même extrêmement dangereuse. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, ce genre d'opération aurait été totalement interdite par les comités d'éthique actuels.
Alors, à son époque, Pasteur n'a pas encore compris l'immunité, tous les mécanismes de l'immunité. C'est assez expérimental,
empirique. Pasteur n'avait pas compris ce qu'était l'immunité. Alors, il a longtemps pensé, quand il immunisait avec des microbes atténués, que les microbes atténués épuisaient dans l'organisme un composé essentiel à la croissance de ce type de microbes, et que donc, quand le microbe virulent arrivait, eh bien, il n'avait rien à manger. Mais à cause du travail sur le vaccin contre la rage, il a compris qu'on pouvait vacciner avec un microbe tué, car le virus de la rage, il était tué.
Allez, pour en savoir plus, à découvrir jusqu'au 19 août prochain l'exposition Pasteur, l'expérimentateur au Palais de la Découverte. Et puis je signale aussi le catalogue de l'exposition aux éditions de La Martinière, Louis Pasteur, le visionnaire. Merci à tous les deux.